expérimentation sur les territoires. Et ici, les territoires vont être ceux qu'on peut associer à la science et à la fiction. Science-fiction, science et fiction, s'agit-il de deux registres opposés ? Je ne vais pas essayer de donner de réponse générale, et cela parce que et la science et la fiction, science-fiction, semblent, et cela a déjà été dit, des domaines extraordinairement hétérogènes et vastes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre qui nous rassemble, le titre général, Stitch and Split. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit à la fois de split, diviser, non pas hiérarchiser, mais distinguer, et stitch, coudre. Distinguer pour pouvoir coudre, parce qu'on ne coud jamais en général, on coud toujours ici et là, là où le point de couture est possible. Je parle aussi comme chimiste. Pour une chimiste, faire entrer en réaction, c'est toujours créer une composition, mais aussi une décomposition. La décomposition, split, permet la nouvelle composition. Et le sens ici de Stitch sera aussi biographique. Je vais essayer, moi qui suis présentée comme philosophe des sciences, de penser aussi à partir des romans de science-fiction, certains films, mais surtout des romans, qui ont participé à ma manière de penser les sciences, qui, au fond, m'ont rendu capable, je crois, de gagner une certaine liberté par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui science. Une liberté d'envisager un peu autrement, de manière un peu décalée, cette histoire, de me situer autrement par rapport à elle, un peu autrement. Je l'ai dit, la science-fiction est un domaine très vaste et hétérogène, et je vais commencer par faire un peu de split, ce qui, je le rappelle, ne veut pas dire hiérarchiser, mais distinguer. Évidemment, les références de type scientifique ou technique sont présentes partout, dans beaucoup d'œuvres de science-fiction. Ce dont je ne parlerai pas ici, mais cela va presque un peu sans dire dans la fondation de ta pièce, c'est les romans où les sciences et les techniques sont le signe d'un progrès pur et simple. Les humains sont simplement capables de faire ce qu'ils ne savent pas encore faire aujourd'hui. Mais l'aventure met en scène des personnages que nous reconnaissons, qui ont les mêmes attentes que nous, qui sont comme nous. Par exemple, le célèbre « Beam me up, Scotty » dans Star Trek est évidemment devenu légendaire. Mais néanmoins, nous ne savons rien dans Star Trek, me semble-t-il, de comment cette possibilité de téléportation a transformé la société terrestre. De toute façon, ce à quoi nous avons affaire, c'est une équipe militaire. Quel est le monde où on peut téléporter? Quels problèmes ont été posés? Comment ont-ils été résolus? Quelles crises? Nous n'en savons rien. Et donc, je ne m'occuperai pas de ces nombreuses science-fiction où la science et la technique viennent, au fond, créer un possible qui, aujourd'hui, est impossible, vient s'ajouter à notre monde, mais ne le transforme pas. Le fait que le monde ne soit pas transformé peut d'ailleurs être tout à fait remarquable. Par exemple, au début du premier film Alien, quand on n'a pas encore affaire aux militaires, on a affaire à un navire spatial qui revient avec un chargement. Et dedans, dans ce navire, il y a des travailleurs mal payés qui discutent de leurs conditions de travail, qui sont exploités. Nous apprenons donc, avant que l'aventure s'engage, que les humains ont peut-être conquis les étoiles, mais que la société, elle, n'a pas changé. Cela, c'est remarquable, bien sûr. Alors, autre split, peut-être un tout petit peu plus inattendu, je voudrais ne pas essayer de coudre avec la science-fiction que je pourrais dire philosophique. Dans ce cas-là, la référence n'est pas au progrès scientifique, mais à des questions que l'on peut appeler des grandes questions, des questions profondes sur la vérité, la réalité. Comme dirait Kant, qu'est-ce que l'homme peut connaître, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut espérer. Ce serait par exemple le cas avec Philip K. Dick. et avec ces êtres à la limite entre la folie et le sens commun. Et même au cinéma, ce roman de Philip K. Dick qui a été adapté, Total Recall, nous met en scène la question du doute, on pourrait dire dans le fil direct de Descartes, puisque l'intrigue, avec toutes les violences et autres effets spéciaux cinématographiques, l'intrigue est celle de... C'est la question de savoir qu'est-ce qu'un vrai souvenir, une vraie expérience, un vrai monde, ou quelque chose qui serait immédiatement implanté dans le cerveau. C'est bien le doute de Descartes qui est mis en fiction. Comment suis-je sûr que ce monde existe vraiment? Est-ce que je ne le rêve pas? Et il y a ce grand moment dans le film quand Quayle, Schwarzenegger en fait, doit décider si ce qu'il vit, il est déjà sur Mars, est réel, ou bien si c'est un souvenir implanté qui s'est emparé de lui, comme le lui dit l'envoyé de Recall Incorporated, qui se présente lui-même comme n'existant pas vraiment et ayant été implanté dans son cerveau pour venir lui demander d'accepter, c'est sa seule chance, de reconnaître que tout ce qu'il vit est seulement une illusion. S'il n'accepte pas, lui dit l'envoyé, tout ce qu'il vit, il deviendra pour toujours bloqué dans son rêve. Quayle hésite, on le comprend, c'est le moment du doute le plus intense, hésite et décide. Il tue l'envoyé parce qu'il a vu une goutte de sueur sur son front alors qu'il le menaçait. Et il a conclu, s'il faisait partie de son rêve, il n'aurait pas eu peur. Quayle a décidé, mais nous, spectateurs, ne savons pas du tout si son critère était le bon. Le doute nous revient, il ne lui appartient plus, mais il est à nous. Parce que, de fait, c'est juste après sa décision que la violence se déchaîne de la manière la plus incroyable dans le film, et jusqu'à ce que Quayle, finalement, se retrouve comme celui qui aura sauvé Mars. Selon l'hypothèse, le sens de chaque scène se transforme et le spectateur vit effectivement l'expérience du doute de M. Descartes. Comment distinguer le rêve de la réalité? Autre exemple de philosophie-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace. Bien évidemment, c'est une merveille du point de vue du réalisme de ce que serait vivre dans l'espace. Et bien évidemment, l'épisode de HAL, l'ordinateur qui entreprend de tuer tous les passagers pour le bien de la mission, est devenu une légende de l'intelligence artificielle. Néanmoins, du début jusqu'à la fin, la question qui habite le film est celle de l'humanité, de son origine, de ses éventuels créateurs, de sa vocation, de la vocation de l'humanité. Je dirais la technique est ici mise au service d'une interrogation de type philosophique. Et pour introduire la différence, le fait que ici je vais, dans un autre cas, je vais pouvoir faire un stitch, je voudrais commencer par un contraste fort, puisque la question de qu'est-ce que l'humain est aussi au centre de ce roman. Un contraste fort avec le livre de David Brin, The Uplift War, ou Élévation en français, je ne sais pas si ça a été traduit en espagnol. Oui, puisque j'ai vu que Brightness Reef l'a été. Tout cela se passe dans un avenir où l'humanité, de fait, s'est assez réconciliée avec elle-même pour se préoccuper de ce qui est désormais véritablement intéressant. Une terre qui peut être réhabilitée, reclaimed, comme disent les activistes américains, et l'élévation, uplift, au statut de sapiens sapiens, de deux espèces prometteuses qui ont réussi à survivre à nos excès, c'est-à-dire les dauphins et les chimpanzés. La science qui importe n'est plus du tout la physique, c'est l'éthologie. Et c'est là que se produit un de ces exemples de premier contact, first contact, les humains découvrent que leur projet rejoint en fait ce qui est la norme intergalactique. Ce qu'ils découvrent d'un seul coup, ce n'est pas une espèce, premier contact, non. cette espèce est une espèce parmi un réseau extraordinairement compliqué d'espèces. Et il découvre aussi que ce que la science de l'évolution darwinienne nous demande d'accepter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une espèce soit capable par ses propres moyens, la sélection naturelle, de s'élever au statut d'être pensant, eh bien cette hypothèse, nous sommes les seuls dans une zone hyper peuplée de l'univers à la pensée. Pour la multitude des espèces que l'on découvre d'un seul coup, le fait que nous ayons cette hypothèse traduit notre destin. Nous sommes les victimes d'un crime. Nous sommes de véritables enfants loups, extrêmement mal élevés, abandonnés par l'espèce qui, sans doute, avait commencé à nous élever. Parce que la norme dans cet univers, c'est qu'une espèce qui a été déjà élevée par une autre en élève d'autres. Ce monde est un véritable monde féodal d'espèces clientes et d'espèces patronnes. Et voilà que les humains sont là comme véritablement quelque chose de très inesthétique, une espèce extrêmement mal élevée. En français, ça marche très bien, élevation mal élevée. En anglais, ça n'irait pas, bad uplifted. Mal élevée, et malheureusement, dans cet univers, ben, puisqu'on peut élever les espèces, on peut aussi les supprimer. Je dirais que dans ce cas, toute l'imagination, dans ce cas, nous n'avons pas affaire à de la philosophie. Pourquoi ? Parce que toute l'imagination de Breen est consacrée à une opération que j'appellerais de dépaysement. Essayer d'inventer ce que pourrait être, en s'aidant de toute l'éthologie qu'il a pu apprendre, de ce que pourrait être l'expérience de chimpanzés et de dauphins devenus intelligents, parlants, mais aussi d'autres espèces dont nous n'avons pas la moindre idée. Faire exister, coexister des altérités crédibles, d'autres manières de se comporter, d'autres corps, et cela dans un monde où l'altérité est normale. C'est ce que toutes les espèces, toutes sauf les humains, ont toujours connu depuis leur propre élévation. Qu'est-ce que c'est une espèce pensante qui vit avec d'autres, très profondément divergente, parfois très dangereuse, et dans un monde qui l'est encore beaucoup plus, puisque les espèces peuvent être supprimées. Et cela continuera dans Brightness Reef. C'est le premier épisode de la deuxième trilogie, puisque là nous avons affaire, je ne le raconterai pas, mais à une planète où subsistent de manière clandestine quelques représentants de différentes espèces, dont des humains. Et là, ce qui est exploité, c'est la singularité, au fond, de ce qui nous semble normal. Nouvel épisode de dépaysement. Qu'est-ce qui est si singulier avec les humains dans ce monde découvert ? Ben, c'est que nous avons tout fait tout seuls. C'est que tous nos savoirs, nous les avons produits. C'est que nous sommes passés de l'écriture au computer, à ceci, à cela, et que nous en avons la mémoire. Tandis que toutes les autres espèces sont venues à l'intelligence dans un monde où les savoirs étaient tout faits. Ils sont venus dans un monde où il n'y avait plus rien à apprendre, puisqu'ils héritaient d'un seul coup, jeune espèce, d'un savoir immémorial, gigantesque et accumulé. Et d'ailleurs, à la fin de la trilogie, on pourrait se demander, il y aura peut-être une autre trilogie, qui sait, s'il n'y avait pas là un projet dans toute cette histoire d'abandon de l'humanité, c'est-à-dire un projet visant à recréer une source de nouveauté que la diversité éthologique des espèces ne suffit pas à produire, parce que cette diversité était écrasée par le donné homogène des savoirs dont toutes les espèces héritent. Savoir qui les écrase toutes, puisqu'elles dépassent chacune d'entre elles. Contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace, je dirais qu'il n'est pas question ici de philosophie, alors que la question, je viens de le dire, qu'est-ce que l'humanité est posée ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas de la philosophie ? Parce que c'est une question qui préoccupe activement les différents acteurs. Qu'est-ce que ces humains ? Devrions-nous nous en débarrasser ou devons-nous les tolérer malgré leur mauvaise conduite, etc. Donc, sur un mode très factuel, l'homme n'est plus au centre, c'est simplement une espèce malheureuse, mal élevée, avec des idées tout à fait bizarres, comme par exemple celle qu'a inventée M. Darwin, etc. Qui a abandonné les humains? C'est ça la question. Pourquoi? Est-ce un crime insensé ou bien peut-être y a-t-il un projet, mais un projet produit par certaines espèces aujourd'hui disparues? Breen ne met pas en scène ces questions. Qu'est-ce que l'humanité? En fait, il invente une situation où nos questions, nos propres questions, qui sommes-nous, deviennent les questions normales que se pose une espèce abandonnée qui a dû tout créer elle-même. Les questions de la philosophie ne sont pas les questions au centre de la pensée, ce sont les questions qu'on doit se poser quand on a laissé, quand on a été abandonné. Ce sont des questions posées par une espèce qui a vécu une situation profondément anormale, et cela non pas au sens de la philosophie, où la souffrance de l'homme, ces questions sont en rapport avec la vérité. Il y a eu une anomalie par rapport à ce qui est normal pour toutes les autres espèces. Et je crois qu'il y a là, par rapport à la question philosophique, un profond dépaysement et un profond humour qui va m'amener à la question scientifique, au problème scientifique. L'anomalie qu'a subi l'espèce humaine n'est pas, comme le doute de Descartes, le chemin vers l'éventuelle vérité ou l'abandon de toute vérité. Non, non, c'est le résultat du caractère anormal de ce qui nous est arrivé. Il n'y a pas de chemin dans le monde de Breen, pas de vérité. C'est simplement un monde dangereux où il y a des alliés et où il y a des ennemis. Eh bien, c'est à propos de ce type de science-fiction-là, plutôt qu'à propos de la science-fiction de type spéculation philosophique, que je peux créer du Stitch. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai voulu penser en pensant science et fiction, ce n'est pas du tout une science qui permettrait de répondre aux grandes questions, ou bien qui ouvrirait une toute puissance de l'humain sur le monde, une toute puissance de connaissance ou une toute puissance technique. Ce qui m'intéresse avec les sciences, c'est la capacité de ces sciences, de certaines sciences, de créer des questions qui font que l'on s'intéresse à des aspects inattendus d'une situation, des aspects qui auparavant n'intéressaient personne. Les sciences qui m'intéressent sont les sciences qui découvrent et fabriquent des accès inattendus et n'empruntent pas les autoroutes des questions qui fascinaient déjà tout le monde. Finalement, les sciences modernes ont commencé avec la création d'un accès, mais dont un accès qui ouvrait à la question que tout philosophe auparavant aurait jugée complètement triviale. Qui peut bien s'intéresser à la manière dont les corps lourds tombent ? Pour les philosophes auparavant, c'était l'exemple même de ce qui était compréhensible de soi, que les corps tombent. Et voilà que cela devenait ce à partir de quoi s'ouvrait un monde de questions. Donc, les sciences modernes ont commencé en créant de l'intérêt pour ce qui était inintéressant. Et ce qui m'intéresse donc dans ce cas, c'est là aussi le dépaysement. La manière dont nos idées sur ce qui est normal, sur ce qui est intéressant, sur ce qui ne l'est pas, est mise en risque. Comment est-ce que les scientifiques créent du nouveau? Voilà la question qui m'intéresse. Plus que le monde est-il intelligible, je dois le reconnaître. Depuis le XVIIe siècle, notre monde est peut-être devenu plus intelligible, mais il s'est surtout peuplé de créations surprenantes. Nous devons accepter que la Terre que nous sentons immobile sous nos pieds est en mouvement tellement rapide qu'il nous donne le vertige. Si on y pense, quand on y pense. Nous avons dû accepter que des corps, et ça c'est il y a si longtemps déjà, que des corps aussi distants soient-ils sont unis par des forces d'interaction invisibles. Il y a si longtemps, on est habitué en fait. Comment s'habituer à cette idée-là? Que nous vivons avec des milliards et des milliards de vivants imperceptibles, sans parler évidemment des molécules, des atomes, des neutrons, des neutrinos, des quarks, qui sait? Un jour des superstrings, quoique. Chaque être nouveau est au centre d'une aventure, et c'est cela qui m'intéresse, et d'une aventure qui transforme les questions, qui permet aux scientifiques d'inventer de nouvelles manières d'interroger, de déplacer la différence entre ce qui est possible et ce qui n'est pas, de la déplacer toujours, jamais de l'annuler. On dit souvent que les sciences observent les faits et respectent les faits. Dans ce cas, elles semblent bien opposées à la fiction. Mais les faits scientifiques, en tout cas lorsqu'il s'agit des sciences créatives, celles qui m'intéressent, sont très différents des faits usuels. Le cas général, le cas usuel en ce qui concerne les faits, c'est que, quel que soit le fait, nous pouvons l'interpréter de manière assez libre. Ce fait ne nous dit pas en général, on peut le respecter si on veut, mais un fait en général ne nous dit pas comment il faut l'interpréter, comment il faut le comprendre. Prenez la situation du chômage, par exemple. C'est un fait que nous ne vivons plus dans une société de plein emploi et on ne réussira pas à dire toutes les conséquences de ce fait, tout ce que cela change pour chacun d'entre nous. Même pour ceux qui ont un emploi, à qui l'on dit « si vous n'êtes pas content, il y en a d'autres qui seront heureux de l'avoir, votre emploi ». Pour les parents qui ne peuvent plus dire aux adolescents « travaille si tu réussis tes études, tu pourras avoir le métier que tu veux ». Pour un professeur comme moi qui ne sait pas quoi dire aux bons étudiants, aux bonnes étudiantes qui vont sans doute se retrouver au chômage. Pour les migrants à qui on fait comprendre par tous les moyens qu'il n'y a pas de place pour eux. Sauf lorsqu'on les fait travailler au noir, puisque le travail illégal coûte, nous dit-on, trop cher. Donc le chômage est important. C'est un fait. Il est mesurable. Et pourtant, ce fait, on l'interprète comme on veut. Les économistes de droite nous disent que c'est, etc., les économistes de gauche, etc. La question n'est pas là. La question, c'est ça, c'est la situation normale de nos rapports avec les faits. Plus ils sont importants, plus il y a des moyens de le comprendre et de les interroger. Donc l'idée d'obéir aux faits est difficile. À quoi obéit-on à ce moment-là ? Le type d'intelligibilité que ces sciences créatives ont inventé au laboratoire, eh bien, c'est justement une intelligibilité qui ne s'adresse pas aux faits usuels. Au laboratoire, ce qui intéresse les scientifiques, ce ne sont pas les faits observables, aussi importants soient-ils. Ce qui les réunit, c'est une réussite qui est exceptionnelle. Faire exister des faits qui ne se laissent pas interpréter comme on veut. Et créer de tels faits au laboratoire, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement au sens où l'histoire des sciences résonne de ces « ici, maintenant, nous avons réussi à créer une situation qui a le pouvoir de dire comment il faut l'interpréter ». La création, et je dis bien création et non pas intelligibilité de ce point de vue-là, la création scientifique au laboratoire a ceci de très particulier qu'elle a pour première valeur de transformer un phénomène en arbitre de nos différentes interprétations. Avant, on pouvait penser ce qu'on voulait, maintenant on a réussi, on est forcé, obligé, contraint par les faits que l'on a réussi à mettre en scène. Rien d'étonnant à ce moment-là à ce que l'on croit pouvoir opposer science et fiction, puisque dans le cas d'une réussite scientifique, on peut dire « jusque-là, nous étions libres d'inventer les explications que nous voulions. Maintenant, nous avons réussi à créer une situation où nous avons perdu cette liberté. » Ce que l'on oublie pourtant, quand on oppose, c'est que cette situation qui nous fait perdre cette liberté a été créée. C'est que le scientifique est un véritable auteur. Simplement, c'est un auteur très curieux, puisque son but, sa réussite, est que l'on reconnaisse que grâce à sa création, il peut affirmer qu'il n'est pas l'auteur de son interprétation. Et je dirais qu'en ce qui concerne de telles réussites, ce que nous appelons science-fiction ne peut pas ajouter grand-chose. C'est pourquoi les innovations projetées technico-scientifiques qu'ils soient utilisés dans Star Trek ou ailleurs, sont présentes avant tout comme des instruments. En fait, l'auteur de science-fiction ne peut pas avoir la moindre idée de comment ce qui est aujourd'hui impossible pourrait devenir possible. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut le prévoir. C'est cela l'événement. Et au mieux, comme David Brin dans Killing People, Il peut donner toute son importance dans l'intrigue à des questions posées aujourd'hui qui ne comptent pas encore beaucoup, des questions qui dépaysent et dont il fera un ressort important de son action. Aujourd'hui, par exemple, donc, certains scientifiques se demandent si l'évidence que nous avons de partager le même monde et de nous comprendre les uns les autres, en plus par un intermédiaire pour certains d'entre vous, de nous comprendre les uns et les autres, ils se demandent si ce n'est pas une construction. Mais lorsqu'ils se le demandent en scientifique, ils ne font pas de philosophie, au sens où ils dramatiseraient le malentendu et l'incommunicabilité, chacun vivant dans son monde qu'il construit. Non, puisqu'ils sont scientifiques et créatifs dans le sens que je vous propose, ce qu'ils font est toujours dépayser, rendre plus compliqué. Pour eux, nos perceptions et nos interprétations pourraient être différentes, en effet, mais ce qui est important, ce qui les intéresse, c'est que malgré nos différences, elles nous permettent en général, et c'est ce tranquille en général qui est intéressant, de nous entendre, de coordonner nos pensées et nos actions. Ce qui était donné, l'entente, devient une réussite, et c'est cette réussite rare qu'il s'agit de célébrer, c'est le fait que ce qui nous semble normal devienne une réussite qui est le facteur dépaysant. Et c'est cela, justement, qui est repris par David Breen dans Killing People. Dans Killing People, on sait comment produire des copies conformes des humains qui ne vivront pourtant que pendant un jour ou deux et dont tout l'espoir est que leur expérience, ce qu'ils ont vécu, puisse, avant qu'ils se désintègrent, être rechargée dans l'individu original. Ainsi, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas puisque ce qu'ils auront vécu deviendra un souvenir pour l'original. Et l'hypothèse dont je viens de parler, que chacun d'entre nous produit son expérience, son monde, par des moyens différents, est devenue centrale dans Killing People. Elle est au cœur de l'intrigue. Une copie conforme ne peut communiquer ce qu'il a vécu qu'à son propre original, pas à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est un des points de Stitch possible pour moi et qui fait que David Breen m'intéresse dans ma pensée des sciences, c'est que justement il y a là bien évidemment un possible extraordinaire qui est créé, la possibilité de copier des individus, de quasiment photocopier des individus, mais ce n'est pas impossible, comment dirais-je, tout à fait libre. Ce n'est pas impossible de la toute-puissance. On peut les copier, mais seulement à certaines conditions. Ils ne peuvent décharger leur mémoire que vers leurs originaux, et c'est à cause de ces conditions que l'intrigue est possible. Ce n'est donc pas une image de toute-puissance, de type philosophique. C'est une image, c'est un corps d'intrigue, justement parce qu'il n'y a pas de toute-puissance, mais déplacement de ce qui est possible et de ce qui est impossible. Donc Breen ne s'est pas simplement servi des possibilités techniques associées aux sciences ou aux spéculations scientifiques. Non, non, il a pris dans les sciences quelque chose qui lui permettait de produire une intrigue, c'est-à-dire de rendre intrigant un aspect de la situation. C'est donc le premier Stitch pour moi, la première couture, lorsque les auteurs de science-fiction prolongent, amplifient, fabulent avec une hypothèse. Et lorsque ce qui est exploré est la manière inattendue dont une petite différence peut changer énormément de choses, lorsqu'ils suivent et créent les conséquences de cette différence, de cette petite différence. Il y a là, me semble-t-il, une exploration historique, sociale, culturelle, éthologique, qui, comme l'expérimentation des scientifiques, donne toute son importance à la question « et si ?», à la création de toutes les différences que peut faire une différence, et une différence toujours finie, non pas une toute-puissance. Non pas une toute-puissance, ce qui fait que, comme la science-fiction réussit à compliquer, alors à mettre en risque, elle crée, elle crée d'autres manières d'être humain dans d'autres mondes, d'autres manières qui affectent leur corps, leurs sentiments, leurs pensées, de telle sorte que ce qui est pour nous normal devient matière à histoire et mis en jeu par l'intrigue. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard que cette science-fiction qui m'intéresse, qui n'est pas de la philosophie-fiction, ait commencé avec cet auteur classique désormais, qu'est Ursula Le Guin, qui a déjà été citée. Le Guin était la fille de l'anthropologue Kreuber, et les risques qu'elle a pris sont ceux, comment dirais-je, de l'épreuve qu'impose à l'anthropologue ou à l'ethnologue la rencontre avec des peuples différents. Comment devenir capable d'entrer en contact avec des êtres différents? C'est aussi l'hypothèse de la science-fiction, même de Brin. Comment créer une fiction, comment se mettre en rapport avec ce monde dont on imagine une différence? Mais la science-fiction, telle que l'a créée Le Guin, fille d'ethnologue encore une fois, modifie bien évidemment la question qui était celle de l'ethnologie au sens classique du terme. On pourrait dire que l'ethnologie fiction de Le Guin est hantée, à une époque de décolonisation, est hantée par l'ethnologie, par ce qu'aurait pu être l'ethnologie, ce qu'aurait pu être l'ethnologie, ce qu'aurait pu être une véritable rencontre dans une autre histoire que celle où l'ethnologie a été créée. Dans toutes ces histoires, l'humain normal perd sa capacité de juger, d'étudier les autres en conservant sa position centrale. Toujours, la position de l'ethnologue est ce qui est mis en risque, est ce qui est dépaysé, et toujours il s'agit de nous rappeler que si notre ethnologie nous a si peu dépaysés, c'est parce que c'était évidemment des pays centraux qui envoyaient leurs ethnologues ailleurs. Dans le roman de Le Guin le plus connu, La main gauche de la nuit, nous avons affaire à un ambassadeur humain sur une planète dont les habitants en fait nous ressemblent à peu près. À ceci près qu'ils sont usuellement asexués, sauf au moment où ils entrent en chaleur. Et alors ils ne pensent plus que au sexe, et ils peuvent devenir, selon les circonstances, soit mâles, soit femelles. Et l'histoire fait sentir que là, c'est l'humain normal qui est anormal, qui est perçu comme un pervers sexuel en état de chaleur permanent. Le roman réussit à nous imposer cette expérience de dépaysement au plus intime, au moment, bien sûr, où l'ambassadeur doit, à la suite de l'intrigue, traverser un désert avec le très impressionnant Premier ministre asexué qui, bien évidemment, se transformer en quelque chose d'assez féminin. C'est le moment où le sens de la normalité vacille et où aussi le sens de la dignité des rapports entre des êtres différents est au centre. Comment ne pas humilier qui que les deux se posent la question de comment ne pas humilier l'autre. Le même problème de premier contact, il s'agissait d'un premier contact, est traité par Thierry, dont vous avez cité à propos de Saïtine, dans Foreigner. Là, le premier contact se fait entre des humains d'un vaisseau qui a fait naufrage sur une planète, ou plutôt le vaisseau est parti, une partie de l'équipage est descendue, et il rencontre les Atévis. Les Atévis ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont, là aussi, simplement biologiquement un peu différents. Le problème, c'est qu'ils sont totalement étrangers aux relations individuelles affectives, comme l'amitié ou l'amour. C'est totalement étranger à leur espèce, qui est unie par d'autres types de liens. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de réduction à la biologie, au contraire, c'est tout un monde complètement différent, organisé de manière différente, qui surgit, où ce que nous appelons rapport affectif n'occupe pas de place, mais où la société a des conflits, des intrigues, des trahisons, qui pour les humains sont totalement incompréhensibles. C'est pourquoi le premier épisode, que le roman ne raconte pas, a beau être sous le signe de la bonne volonté la plus ouverte, cela se passe très mal. Les humains, en toute bonne volonté, créent les pires catastrophes dans la société athévie. Une guerre s'ensuit, et à la suite de cette guerre, un accord est produit qui est qu'un seul humain, les sociétés ne peuvent être mélangées, un seul humain, ambassadeur, vivra chez les athévies. Et cet humain devra, c'est évidemment lui que l'on suit dans les romans, cet humain vivra l'expérience de dépaysement le plus radical. Pourquoi ? Parce que, quel que soit son désir de dire « ici, c'est pas possible, ils sont mes amis », il doit résister toujours. Il doit se souvenir que les athévies ne sont pas comme lui et que s'il se laisse aller à croire que les athévies sont comme lui, il peut redéclencher une guerre. S'il se laisse aller à la tendresse humaine, au lait de la tendresse humaine, comme on dit, il sait que c'est là qu'il peut être celui par qui une nouvelle catastrophe arrivera. Donc là aussi, expérience de dépaysement au plus profond, c'est le corps sensible, affectif, ému du diplomate qui doit être discipliné et qui deviendra progressivement capable de devenir un véritable médiateur, susceptible d'appartenir aux deux mondes. Je dirais que avec Le Guin comme Chéri, nous sommes très proches de l'invention scientifique, c'est-à-dire de la création délibérée d'une situation où il est possible pour les scientifiques d'apprendre, pour le romancier de créer. Une situation avec une petite différence, apparemment petite, bien définie, dont il va s'agir de suivre et d'inventer toutes les conséquences les plus inattendues. Une différence et des mondes divergent. Une différence auquel nous ne pensions pas et un tout autre monde peut être celui que nous devons apprendre à connaître et qui nous dépaysera en rendant, encore une fois, important, intéressant, ce qui nous semblait être seulement factuel. C'est justement dans ce devenir intéressant qu'il y a la rencontre qui fait, je crois, des écrivains de science-fiction de véritables chercheurs, c'est-à-dire comment apprendre à partir d'une petite différence qui ne comptait pas. Ce qui soulève une question, je vais aller un peu plus vite, est-ce que ce qu'ils font là, ces chercheurs en expérimentation sociale historique, est-ce que ce n'aurait pas dû être le travail des chercheurs de nos sciences, des chercheurs de sciences humaines, sociales et historiques? Pourquoi les sciences créatives dont j'ai parlé n'ont-elles pas créé du nouveau en ce qui concerne notre rapport à nous-mêmes, à nos sociétés, à nos histoires? Pourquoi ont-ils simplement créé du nouveau par rapport aux pierres, aux électrons, aux bactéries? Pourquoi notre société a-t-elle été bouleversée par des techniques nouvelles, mais pas par l'exploration de manière nouvelle de nous entendre ou de ne pas nous entendre, de travailler ensemble, de penser ensemble? On peut évidemment ici faire intervenir la politique. Par exemple, Michel Foucault, on peut se dire, eh bien, il n'y a pas de nouvelle manière de faire parce que ce qui est recherché, ce qui fait que, y compris les scientifiques sont satisfaits, a ses raisons tout à fait ailleurs que dans le fait d'apprendre. Si on continue à mettre les gens en prison, où ils deviennent le plus souvent délinquants, ou à faire de l'école un lieu de tristesse, c'est parce que ces échecs sont en fait, nous propose Foucault, des réussites. La prison est une machine à fabriquer une différence stable entre vrais délinquants et honnêtes gens, et l'école, une machine à discipliner les corps et les pensées et à sélectionner ceux qui réussiront et ceux qui rateront. Donc là, pas de chercheurs, puisque la réussite est un échec, ou l'échec est une réussite, mais en tout cas, ce n'est pas un lieu d'apprentissage. Mais ma question s'adresse aussi aux sciences. Pourquoi justement les scientifiques se sont-ils à ce point, dans ce cas, laissés faire? Pourquoi se sont-ils laissés soumettre? Pourquoi, à partir de la psychologie animale et avec les sciences humaines, avons-nous eu affaire à des sciences tristes, coupées de l'invention ? Des sciences qui, de fait, et pour ça Foucault ne me suffit pas, semblent d'autant plus fières d'elles-mêmes qu'elles ont réussi non pas à produire du nouveau, mais à rendre moins intéressant, moins compliqué, moins surprenant ce qu'elles étudient. Par exemple, je pense à l'école. On peut dire, pour suivre Foucault, que l'école est une machine à sélectionner, donc à fabriquer de l'échec, mais où sont tout de même les chercheurs qui résisteraient, qui travailleraient activement, inventivement, à d'autres possibilités. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour les réprimer. Ils ne sont même pas réprimés, ils existent très peu. Pensez à cette expérimentation qui est quasiment de la pédagogie fiction. Libres enfants de Summerhill, qui était quelque chose qui faisait rêver ma génération. Ce lieu anglais où des enfants apprenaient quand ils le voulaient. Eh bien, c'est resté dans la mémoire comme une expérimentation politique et culturelle subversive. Nous ne trouvons pas autour de Summerhill comme lieu où il y aurait moyen d'apprendre des chercheurs qui prolongent, qui se posent des questions, qui produisent des propositions, qui contribuent à dépayser notre idée quant à ce qui est normal. On peut dire que la science-fiction fait le travail que les chercheurs des sciences humaines ne font pas. Et donc là, c'est le nouveau type de Stitch que je voudrais vous proposer, celui où j'ai été vraiment intéressée par la science-fiction autrement que comme lectrice, où j'y ai été intéressée dans mon métier. Il y a là apparemment apparition de chercheurs qui posent les questions que, quelque part, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences psychologiques n'ont pas posées. Sauf peut-être les éthologistes. Et ce n'est pas un hasard que David Brin, dans Uplift War, sélectionne l'éthologie comme la science du futur. Ce n'est pas un hasard que Cherry et Le Guin aient des hypothèses culturalo-éthologiques. Ce sont des éthologies divergentes qui créent des mondes culturels différents, sans évidemment que ces mondes puissent être réduits à la différence éthologique. Aujourd'hui, oui, certains éthologistes tentent de se poser des questions qui seraient des questions de science-fiction. De quoi peut devenir capable un perroquet ou un singe dans un environnement intéressant ? Qu'est-ce que c'est un environnement qui peut intéresser un perroquet, qui peut lui permettre de manifester ce dont il peut devenir capable ? La question alors est pourquoi est-ce que les sciences ont abandonné leur capacité d'invention lorsqu'elles se sont adressées à ces êtres, animaux ou humains, et au devenir dont ces êtres pouvaient devenir capables. Comme ça va beaucoup plus lentement que je ne l'avais prévu, parce que j'ai décidé de ne pas lire, je vais sauter sur l'exemple de Clever Hans. C'est le cheval dont vous avez peut-être tous entendu parler, le cheval qui savait compter. C'était au début du XXe siècle, c'était un cheval qui était censé, on lui disait 17 plus 5, et il tapait 12 fois, et même parfois quand on le lui disait en français, alors que c'était un cheval allemand, parfois il le faisait aussi. Bon, eh bien, Clever Hans est resté dans la mémoire collective comme l'exemple de ce qu'on appelle l'artefact. Sans le savoir, celui qui lui posait la question lui indiquait par des signes imperceptibles, sans le savoir, et Clever Hans arrêtait au moment où le signe signalait « ça y est, c'est la bonne réponse ». Qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu le symbole d'une science, de science qui doit fonctionner sous surveillance. Attention, attention, attention. Si vous ne faites pas attention, vous ferez comme avec Clever Hans, vous influencerez vos sujets. Ce que vous obtiendrez, vous en serez partiellement responsable. Donc ces sciences, me semble-t-il, psychologiques ou animales et humaines, ont vécu dans la crainte d'influencer leur sujet. C'est ça qui est devenu l'objectivité. L'objectivité perd très vite son sens lorsque la crainte d'influencer se met aux commandes et non pas l'invention d'un accès intéressant. Et c'est là qu'on voit, comment dirais-je, une bifurcation sur laquelle on peut fictionner, sur laquelle on a fictionné. C'était très bien de montrer que Cleverance ne comptait pas vraiment, parce que compter est une activité fort peu intéressante. Même à l'école, on a beaucoup de mal à faire dire aux enfants que 7 plus 5 égale 12. Ça n'a strictement, en général, aucun intérêt. C'était donc une question de peu de goût. Par contre, ce qui a été dit, c'est tricherie inconsciente. Alors que ce à quoi ils avaient affaire, c'est à la richesse extraordinaire de ces signaux imperceptibles. Il semble bien que Cleverance, que ces signaux sont des signaux que le cheval lui-même a suscités. On a refait les expériences avec des humains et les signaux imperceptibles échangés qui ont été expérimentés, en plus gros, étaient différents. Donc on peut dire que peut-être que l'humain a manipulé le cheval, mais le cheval a aussi manipulé l'humain. Extraordinaire richesse que les sciences se sont bien gardées usuellement d'aborder, justement parce que cela brouillait la différence entre le sujet qui pose les questions et l'objet qui doit répondre de manière intelligible à ces questions. Je dirais que là, c'est le point où la preuve expérimentale, le fait de trouver des faits qui ont le pouvoir de prouver, dont je vous ai parlé, se transforme en poison. On dira, il n'est pas prouvé. On a prouvé que Cleverance ne savait pas vraiment compter, et cela veut dire que le scientifique, au lieu d'être l'inventeur d'un accès, devient un juge qui se méfie, un juge qui, pour qui, s'il n'y a pas de preuve, rien d'important n'a eu lieu. Et là, c'est dans une science-fiction assez mineure que nous retrouvons cette situation mise en fiction, deuxième type de Stitch, là, sur cette différence. C'est dans Le vol de Pégase, To Ride on Pegasus, de Anne McCaffrey, où on rencontre une petite innovation technologique, la bulle, ça s'appelle en français, lecteur d'encéphalogramme un peu plus perfectionné. Et par hasard, quelqu'un qui est un Cleverance humain, quelqu'un qui se pense doué de précognition, qui a eu un accident de la route, est soigné par une infirmière qui est aussi une Cleverance humaine, puisqu'elle pense être une infirmière aux mains guérisseuses, mais elle va se rendre compte que lorsque le Henri Darrow, le précog, le doué, le sujet doué, a un événement de précognition, ben la bulle réagit. Et qu'ils vont se rendre compte que cette bulle, que le tracé réagit à chaque événement de type parapsie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tout à coup, eh bien, il va se produire cet événement là où je le soulignais, c'est-à-dire la levée de la suspicion. Évidemment pas la levée de la suspicion pour les sceptiques, mais la levée de la suspicion entre sujets doués. Ces sujets doués à qui on a toujours dit depuis Cleverance, vous croyez que vous êtes voyant, mais vous lisez des signaux imperceptibles, vont grâce à la bulle se faire confiance les uns les autres, cultiver ensemble, en se tournant le dos aux sceptiques, leur talent. Et bientôt, là, le roman devient très classique, eh bien, la société des êtres doués de talent deviendra un pouvoir mondial. Mais c'est ce début qui est important, c'est-à-dire que ça n'a pas été une révolution scientifique, ça a été une révolution écologique. La possibilité pour ces êtres doués de talent d'échapper à la suspicion, d'échapper aux mises en scène scientifiques qui étaient en fait des mutilations, qui en fait, créaient le scientifique comme juge et non pas comme inventeur. Bon, cinq minutes encore. Je dirais que la bulle de McCaffrey permet un Stitch parce que justement, elle nous montre l'une des raisons du devenir poison de la science expérimentale lorsque elle a voulu s'étendre aux sciences qui concernent les animaux et les humains. Le laboratoire est un milieu où on met à l'épreuve, mais justement mettre à l'épreuve un électron et mettre à l'épreuve un singe ou un humain, ce n'est pas la même chose. L'un peut créer le succès, c'est-à-dire créer l'accès à que peut un électron, l'autre va éventuellement créer la mutilation, créer la réduction de ce à quoi on s'adresse, à ce qui peut être prouvé. Vous me direz, oui, d'accord, et ça va être mon dernier point de Stitch. La bulle, c'est très bien, Macafrey, c'est très bien, mais tout de même, cela suppose que la parapsychologie, cela existait vraiment, puisque le tracé encéphalographique en témoigne, même s'il ne l'explique pas. C'est juste un marqueur. On ne sait toujours pas ce que c'est à la fin du roman. On peut simplement le cultiver. Et ça, c'est le point où peut-être j'ai le plus appris d'une certaine science-fiction. C'est l'importance de cette question pour nous. Est-ce que cela existe vraiment ? Dans Les brumes d'Avalon de Marianne Zimmer Bradley, c'est de cela qu'il s'agit, exister vraiment. Morgane, qui est descendante des prêtresses celtes, voit disparaître son monde alors qu'en Angleterre, la religion chrétienne entreprend d'éradiquer l'ancien culte. Elle raconte à sa manière l'histoire associée à Arthur et au chevalier de la table ronde et réussit à produire, encore une fois, un dépaysement. L'impression dépaysante que l'histoire originale où Morgane est une méchante sorcière, est seulement la version chrétienne, celle de ceux qui n'ont rien compris, qui ont cru faire triompher la vérité alors qu'ils détruisaient un monde. Et c'est en cela qu'il s'agit ici encore de science-fiction. L'histoire aussi est une science, et la fiction, ici, est cousue, stitched à la science historique. Elle met en risque notre histoire, celle qui a été écrite par les vainqueurs, avec les catégories des vainqueurs. Lorsqu'une religion rencontre une autre, on pourrait, ce serait normal, attendre un combat entre deux vérités, qui aura le pouvoir, le dieu chrétien ou la déesse qu'honore Morgane. Mais ce qui est mis en scène, c'est plutôt deux rapports à la vérité. La déesse ne réclame pas d'être honorée, vénérée. Elle n'est pas associée à une vérité qui se définirait contre l'erreur, contre les faux dieux. Elle existe pour ceux qui savent trouver le chemin, qui savent cultiver le rapport à elle, qui savent s'adresser à elle. C'est pourquoi Morgane sait que l'île sacrée d'Avalon va disparaître dans les brumes, devenir inaccessible aux humains, et que le dieu des chrétiens va régner seul. Non pas parce qu'il serait le vrai dieu, mais parce qu'il amène avec lui la définition brutale de la vérité comme pouvoir contre l'illusion, la définition brutale de la vérité qui détache et détruit ce qui permettait à la déesse d'exister pour les humains. C'est une histoire qui m'a profondément marquée et qui m'a fait comprendre là pourquoi mon intérêt pour la science-fiction et ma manière d'aborder les sciences était marquée soudain par ce fait-là, cette science-fiction écrite par des femmes. La question qui est commune à moi qui interroge les sciences et à ces femmes qui écrivent de la science-fiction, c'est la question « Que nous est-il arrivé ?» Et elle intéresse les femmes, bien sûr, puisqu'elle communique directement avec la question « Que pourrions-nous devenir ? De quoi serions-nous capables dans un monde différent ?» Les femmes peuvent aimer le dépaysement parce qu'elles n'ont aucune raison de respecter ce que notre monde définit comme normal. C'est donc dans Les brumes d'Avalon que j'ai découvert, et ça a été une découverte, je dirais, de type philosophique, pour moi qui pensais les sciences, j'ai découvert cette possibilité de soutenir un rapport à la vérité qui, justement, ne passe pas par « est-ce que cela existe vraiment ?» Ce rapport « est-ce que cela existe vraiment ?» est un rapport qui peut se définir contre la fiction, mais la déesse d'Avalon est réelle au sens où elle rend capable de penser et de sentir, alors qu'elle n'a pas le pouvoir de s'imposer contre le scepticisme. Et de fait, cette déesse existe peut-être pas vraiment, mais elle est revenue, puisque la déesse de Morgane est revenue aujourd'hui pour des femmes en lutte qui se nomment sorcières aujourd'hui. Des sorcières qui n'ont bien évidemment rien à voir avec les créatures du diable, de l'imagination chrétienne, mais beaucoup plus avec le mouvement féministe et le mouvement pacifiste anti-impérialiste. Celles-là non plus n'ont pas besoin de prouver que la déesse existe vraiment. Ce qui leur importe, ce sont les manières de devenir, les transformations de l'expérience, qui peuvent être cultivées, expérimentées grâce à elles. Et la boucle est bouclée quand l'une de ces sorcières néo-païennes, dont je sais maintenant qu'il faut prononcer son nom Starhawk, eh bien, n'a pas seulement écrit des livres qui font se rencontrer politique et spiritualité, mais a écrit aussi de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est dans la science-fiction qu'elle peut déployer aussi le pari sur un avenir précaire, qui est le pari pour lequel elle lutte politiquement. Je dirais que l'expérimentation que les sorcières contemporaines font avec ce qu'elles appellent magie, l'art des transformations de l'expérience, l'exploration des dispositifs qui suscitent de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités d'expérimenter, c'est cela aussi que l'on aurait pu attendre des sciences humaines si elles avaient créé dans leur domaine le même type de risque que les sciences expérimentales. On peut, et c'est là que j'arrêterai, parce que j'ai pris beaucoup trop de temps, on peut se demander si ce point de rencontre que je viens de définir concerne bien la science, si ce ne serait pas plutôt un point de rencontre avec l'art, puisque faire exister, expérimenter serait l'art. J'aimerais bien qu'on discute de cela, parce que c'est possible, mais à ce moment-là, effectivement, l'art rejoindrait son sens premier, technique. C'est ainsi que Starhawk définit la magie, c'est une technique, un art de faire. Hein. Et le fait que, justement, les sorcières définissent cette technique avec ce qu'elles appellent politique, me semble poser un problème intéressant éventuellement du point de vue de l'histoire de l'art. Pourquoi ? Parce que, pour les sorcières, un peu comme pour les scientifiques, il ne s'agit pas de s'adresser à un public, mais d'expérimenter elles-mêmes, pour elles-mêmes, avec ceux et celles qui sont engagés dans cette production, dans cette expérimentation collective des dispositifs. Et donc là, il me semble que j'étais partie entre science et fiction. Ici, nous arrivons à ce point d'indécidabilité où beaucoup de choses ont été cousues et où on ne sait plus si c'est de la science, mais la fabulation d'une science qui aurait échappé au poison de la domination et de l'expérimentation devenue objectiviste, si c'est de la politique, si c'est de l'art, si c'est de la fiction. Je vous remercie.